c'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus. Aujourd'hui au sommaire, la communauté noire mauritanienne manifeste à New York. Au Mali, le procès de l'ancien chef des putschistes, Amadou Sanogo, va être jugé pour assassinat de militaires. Ce procès est au milieu, au centre de toutes les conversations. Et puis au Burkina Faso, le monde politique est de nouveau ouvert aux militaires. Nous ferons un détour par le Nigeria où une enquête d'Amnesty International dénonce que les répressions des forces de sécurité nigériane. Et enfin, l'Organisation mondiale de la santé a de nouvelles directives en matière de santé prénatale. Voici tous les sujets que nous allons développer dans Sahel Plus. Restez avec nous. La communauté noire de Mauritanie a manifesté lundi dernier devant le siège des Nations Unies à New York, le 28 novembre 1990, à la base militaire d'Inal. 28 officiers noirs ont été pendus à l'occasion du 30e anniversaire de l'indépendance. Aucune excuse n'a jamais été présentée aux familles des victimes, dont certaines ont fait le déplacement à New York. Idriss Fall a joint sur place Bakary Tandja, défenseur des droits de l'homme.
Le 28 novembre 1990, dans le cadre du nettoyage ethnique en Mauritanie, le gouvernement de la Mauritanie a exécuté, a pendu 28 officiers noirs en détention à célébration de l'indépendance nationale de la Mauritanie. Et depuis cette date, le 28 novembre est devenu une journée de deuil. Et ce qui rend la situation réellement grave, c'est que jusqu'à présent, nous ne savons même pas là où ces personnes ont été enterrées. Et les responsables de ces crimes sont en train de circuler librement, pour non seulement circuler librement, mais qui ont eu des promotions. Et en 2009, l'actuel président Aziz, qui s'était rendu à Kayedi pour organiser la prière des morts. Nous considérons ça comme une insulte à la communauté noire. Aucun officier n'a été tué à Kayedi. Et comme la responsable de l'association des veuves, ici, Aïssata Niang, le dit, si le président était sincère, au lieu d'aller organiser cette prière à Kayedi, il devait aller organiser ça dans les lieux où ces personnes ont été exécutées. Nous avons notre sœur Kumba Gueye qui a fait le déplacement depuis Belgique parce que son frère a été exécuté parmi ses officiers. Aïssata Niang, elle a perdu son mari. Les membres de la communauté sont venus de Philadelphia, de Chicago, de Cincinnati, etc., devant le siège des Nations Unies.
Et qu'est-ce qu'il est advenu des militants noirs de IRA qui étaient jugés à nouveau à Zouerat?
Les militants IRA qui ont été jugés, 10 ont été libérés, 3 sont encore en détention. Ces personnes ont été victimes de manipulation. Les charges qui ont été retenues contre eux, c'était des charges fabriquées et uniquement pour décapiter et pour empêcher cette organisation qui actuellement dérange le gouvernement mauritanien. Et par cette action, ils n'ont fait que renforcer les convictions de ceux qui sont engagés pour la lutte contre l'esclavage, la lutte contre l'impunité, la lutte pour la justice sociale pour tous les Mauritaniens.
Bakary Tandja, un Mauritanien défenseur des droits de l'homme à New York qui a manifesté lundi dernier. Au Mali, Le procès d'Amadou Aya Sanogo et ses co-accusés, qui devaient s'ouvrir aujourd'hui à Sikasso, a été ajourné. Les avocats de la défense ayant demandé et obtenu une suspension de 24 heures. Au Mali, ce procès suscite beaucoup d'intérêt car il est le premier jugement d'un groupe de putschistes dans le pays. Amadou Aya Sanogo et les autres prévenus sont notamment accusés d'enlèvement et d'assassinat. De Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
S'il y a un sujet qui alimente les débats à Bamako, c'est l'ouverture du procès de Amadou Aya Sanogo et co-accusé. Boukari Daou, journaliste.
Il s'agit en l'occurrence de l'enlèvement des militaires appelés Béret Rouge, 21 éléments qui ont été extraits de la prison pour aller à une destination inconnue. Après des enquêtes, il a été découvert qu'ils sont dans un charnier. Donc ils ont été abattus de sang-froid et enterrés dans un charnier.
Depuis le début de l'instruction du dossier, les avocats de Amadou Aya ont dénoncé la procédure. Maître Tchoussoulo Konare, avocat de Amadou Aya Sanogo.
Nous allons nous battre, défendre le dossier, c'est tout. Je n'aime pas dire comme les autres avocats, dire que le dossier est vide, ceci, cela, c'est pas mon genre. Je sais que je veux me battre. Maintenant, on fera voir à la cour, c'est les lois qui ont été violées, c'est à eux d'apprécier, parce que la cour est composée de 3 magistrats professionnels et de 4 assesseurs. C'est à eux de voir si nous avons raison ou pas. Sinon, nous allons présenter effectivement nos moyens de défense qui doivent être souvent présentés avant tout débat. Donc si ça aboutit, le procès, c'est un autre jour. Mais si ça n'aboutit pas, on va continuer.
Les Bamakois veulent un procès exemplaire qui ne sera pas un jugement politique, nous, Togo, politiciens.
Une justice pour le peuple malien, parce qu'on ne peut pas être dans un pays où on peut égorger, supposer égorger les gens, où on peut prendre les gens, montrer les gens à la télé, aller après qu'on ramasse leur corps, ou enlever des gens à la maison, souvent des gens qui n'ont rien fait des Béret Rouge, et qu'on retrouve leur corps dans les trous. Nous pensons réellement qu'ils doivent avoir justice. On a vu des gens tués comme des chiens. On a vu des gens tués comme des moutons.
La presse participera à ces procès, mais il n'y aura aucune retransmission sur les radios privées, encore moins les télévisions. Issa Kaba, du groupe Renouveau TV.
Je crois que Amadou Aya Sanogo et ses avocats auront beaucoup de choses à dire. Et j'aurais quand même préféré que ce soit retransmis comme ils l'ont demandé à la télé, pour que tous les Maliens soient témoins de ce qui va se dire et de ce qui va se faire.
Le bureau Amnesty International Mali souhaite voir un procès aboutir avec des résultats réels. Salim Traoré, directeur d'Amnesty International Mali.
D'abord, c'est un droit d'être jugé quand on est arrêté, mais c'est aussi un droit d'avoir justice quand on est agressé. Donc j'attends de ce procès que ce ne soit pas du théâtre. J'attends de ce procès que le parquet, en tout cas, puisse être à la hauteur, que ce ne soit pas simplement un geste pour montrer à l'opinion internationale que nous voulons respecter les droits humains, mais je voudrais que ce soit sincèrement un procès rendu équitablement, aussi bien dans l'intérêt des victimes que dans l'intérêt des accusés.
À Sikasso, le procès se déroulera dans la salle Lamissa Bangali. 240 personnes ont été prévues. Aucune personne, selon le parquet, n'aura accès à la salle d'audience sans être accréditée. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Direction le Burkina Faso, où les députés ont modifié une loi prise sous la transition interdisant aux militaires d'être nommés à de hautes fonctions comme ministres, ambassadeurs ou directeurs généraux. Ils ont aussi repris la loi sur les conditions d'avancement dans l'armée. Bien entendu, le militaire qui veut faire de la politique doit tout simplement démissionner de l'armée. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Zoumana Wanogo.
Des 9 présidents qui ont géré le Burkina depuis son indépendance en 1960, seulement 3 sont des civils. Une situation qui démontre à souhait l'omniprésence de l'armée dans les affaires politiques au Faso. C'est pour mettre fin à cette situation que le Parlement de la Transition avait voté la loi interdisant aux militaires d'occuper de hautes fonctions et de faire de la politique. Alexandre Sankara porte, lui, 2 chapeaux, celui des députés sous la transition et celui des députés démocratiquement élus. On l'écoute sur ces deux votes.
J'étais parmi les rares députés de l'époque qui avaient trouvé que cette loi était taillée sur mesure. Cette fois-ci, les modifications principales, c'était de revenir à la situation initiale avant la loi du CNT, notamment l'avancement des militaires. Donc on a supprimé ces dispositions qui ont permis aux ZEDA d'être bombardés général. Il y a aussi le fait qu'on est revenu un peu, entre griffes, sur les dispositions qui empêchaient les militaires de faire la politique. Cette fois-ci, le gouvernement a expliqué qu'il fallait introduire une disposition qui permette aux militaires d'être nommés à des hautes fonctions de l'État. Alors là-bas aussi, il y a eu des inquiétudes parce que beaucoup de députés ont estimé que c'était un recul. Parce que sous le CNT, quand même, il fallait reconnaître que la loi était dure, stricte, qui interdisait donc aux militaires de faire la politique. Maintenant, si on les nomme à des hautes fonctions comme ministres, est-ce que ce n'est pas, ils ne font pas de la politique à ce moment?
Nous avons rencontré Jean-Pierre Palme. Il est colonel de l'armée et a été ministre des Sports avant la loi de la transition. Suivant son avis sur le fait de lever l'interdiction faite aux militaires.
Si on est revenu là-dessus, je pense que c'est dans la normale des choses. Aujourd'hui, l'armée, ce n'est plus l'armée d'hier où les gens étaient recrutés soit sous les cas, etc., comme on disait dans le temps où on n'avait pas de niveau. Nous avons toutes les compétences au sein de l'armée aujourd'hui. Et si vous, je prends l'exemple même de l'hôpital. Si vous enlevez les professeurs et médecins militaires de l'hôpital civil aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de médecins à l'hôpital. Hein. Et je ne pense pas que ça soit vraiment quelque chose de juste que de marginaliser l'armée. Au contraire, il faut permettre à l'armée de vivre au sein du peuple.
Après l'adoption de la loi, le président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, a fait cette adresse à l'armée.
Nous disons à l'armée qu'aujourd'hui, son rôle n'est pas de s'intruser dans la sphère politique. Sous la transition, cette loi a été modifiée pour des besoins personnels, que ce soit dans le domaine civil ou dans le domaine militaire. La loi et impersonnel. De façon générale, je crois que cette loi est acceptable. Bien entendu, l'esprit républicain doit habiter et l'armée et les composants de la nation. Nous devons construire un pays démocratique, une armée républicaine.
Zoumana Ounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
Une enquête d'Amnesty International, les forces de sécurité nigérianes ont fait réprimer dans le sang des manifestations pacifiques pro-Biafra dans le sud-est du pays, entraînant la mort d'au moins 150 personnes entre août 2015 et août 2016. Pour plus de détails, j'ai joint la directrice régionale d'Amnesty pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Samira Daoud.
Nous avons mené près de 200 entretiens. Nous avons aussi analysé 87 vidéos, plus d'une centaine de photos, de nombreux témoignages, directs ou indirects, liés aux manifestations et aux rassemblements qui ont été organisés durant cette période et au cours desquels l'armée a tiré à balles réelles contre les manifestants. Et donc voilà, ce rapport documente des cas graves d'exécution extrajudiciaire et d'une répression meurtrière et aveugle à l'encontre de personnes qui manifestaient soit à l'occasion de commémorations en hommage aux victimes du Biafra, soit pour manifester leur souhait de voir le Biafra indépendant.
Ce recours à la force de l'armée nigériane semble avoir été délibéré. Et que font les autorités?
Nous pensons que le fait d'abord d'avoir envoyé l'armée pour assurer le maintien de l'ordre est en grande partie à l'origine de ces crimes et de ces bains de sang. Ce n'est pas le rôle de l'armée que de gérer les foules et de faire du travail de maintien de l'ordre, c'est le travail de la police. L'armée n'est pas formée pour ça. Et donc, malheureusement, ce que nous avons pu observer, c'est que l'armée sur le terrain s'est comportée comme elle se comporte en zone de conflit, c'est-à-dire que nous avons pu assister à de véritables opérations militaires qui avaient pour objectif, malheureusement, de tuer et de blesser. Et l'une des choses que nous soulignons dans notre rapport, c'est justement que, malheureusement, les autorités n'ont jusqu'à présent encore mené aucune action visant à mettre fin d'abord à ces exactions et à enquêter et demander aux personnes responsables de ces faits de rendre des comptes. Ce n'est malheureusement pas quelque chose d'inhabituel. Amnesty a travaillé longtemps sur le comportement de l'armée dans les opérations de lutte contre Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Et malheureusement, nous avons documenté exactement les mêmes comportements, c'est-à-dire les éléments de l'armée qui procèdent à des arrestations arbitraires, à des exécutions extrajudiciaires. policières et à des exécutions de civils non armés.
Finalement, vous avez découvert qu'il y avait quasiment une véritable politique qui se traduit par des centaines d'arrestations arbitraires, de mauvais traitements, que c'est finalement très organisé.
Tout à fait. C'est clairement une opération visant à semer la terreur et à réprimer de manière meurtrière. Il ne s'agit pas de cas isolés, il ne s'agit pas de bavures, il s'agit véritablement d'ordres qui auraient été donnés. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est manifesté sur le terrain, où les militaires sont venus pour clairement finir avec les manifestants.
Samira Daoud, directrice régionale d'Amnesty pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nouvelle directive de l'Organisation mondiale de la santé en matière de santé prénatale. L'objectif visé par l'OMS, améliorer les chances de survie des futures mères et de leurs nourrissons. Pour un éclairage, Timothée Donangmaï, adjoint à Genève, le docteur Maurice Boutchagou du département de la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant et de l'adolescent à l'OMS.
Les praticiens ont constaté que les directives qui étaient jusque-là utilisées étaient quelque part associées avec une mortalité des nouveau-nés un peu plus élevée que prévue. C'est des nouvelles évidences qui sont apparues dans un certain nombre de pays qui mettaient en pratique les directives de l'OMS telles que proposées jusque-là, c'est-à-dire avoir au moins 4 consultations prénatales pour chaque grossesse sans complications. Et sur cette base-là, il a fallu, n'est-ce pas, revoir la façon de prester ces services.
Quelles sont les principales de la cinquantaine de recommandations publiées par l'OMS ?
D'abord, la philosophie qui est derrière, c'est non seulement pouvoir détecter les complications qui peuvent survenir pendant la grossesse en vue de pouvoir réduire les décès, surtout chez les enfants qui étaient observés dans un certain nombre de pays, mais aussi aller pour une expérience positive de la grossesse en mettant un accent particulier sur la qualité des soins. Deuxième chose, on a constaté que plus on a des contacts entre les praticiens et les femmes enceintes, donc pendant la grossesse, plus il y avait des chances de détecter tout ce qui peut survenir comme complication pendant la grossesse et donc prévenir les cas graves. Il s'agit d'avoir au moins 8 contacts pendant la grossesse et ceci donc par opposition aux 4 visites qui étaient connues de façon classique. Le troisième point le plus important qui est apparu, c'est que l'utilisation de l'échographie au début de la grossesse permet, n'est-ce pas, aux praticiens de dater l'âge de la grossesse et de pouvoir donc intervenir à tout moment. Parfois, il peut s'agir d'une grossesse multiple, il peut s'agir de malformations qui sont détectées par ces nouvelles technologies. Et ceci donc permet d'avoir de meilleurs résultats par rapport à la fin de la grossesse, à l'accouchement et à l'état des nouveau-nés.
Docteur Maurice Boutchagou du département de la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent à l'OMS. Celle Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la production Fred Nerkaimit, au micro Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, temps universel sur VOA Afrique. Nous nous quittons en musique avec l'Orchestre Canada de Mopti et le morceau Dodo. Bonne soirée et bonne nuit à tous.